Bonjour. Vous allez bien? Oui. Des petits oui. Vous n'osez pas répondre? Ah, il y a au moins une personne qui va bien. Non, je pense qu'il y en a plus. Il y a une question, j'ai remarqué, qui revient souvent quand on discute avec les personnes, qu'elles soient tout nouvellement converties depuis quelques semaines, voire quelques jours, ou depuis plusieurs dizaines d'années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Et d'ailleurs, je voudrais tout de suite prévenir, si parmi nous, certains n'ont pas encore fait ce pas de la foi, cette rencontre avec Dieu, surtout ne t'en va pas maintenant, parce qu'il y a aussi une volonté de Dieu pour toi, même si tu n'as pas encore fait le pas, et on en parlera dans quelques instants. Et à l'inverse, si c'est une question que tu ne t'es pas posée depuis un certain temps, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Alors c'est peut-être ce matin l'occasion aussi de se dire, tiens oui, tout compte fait, peut-être que Dieu a une volonté, et je ne m'en étais pas forcément soucié depuis pas mal de temps, mais c'est peut-être l'occasion ou jamais de m'y replonger et d'y repenser. Alors c'est vrai, je pense que c'est une question importante, parce qu'on peut difficilement dire, Seigneur, je te confie ma vie, je m'abandonne à toi, et puis faire comme si tout compte fait, on n'avait rien fait, et n'en faire que, comme on dit, ses quatre volontés, faire ses quatre volontés, c'est ça, hein. Et ce matin, j'aimerais qu'on aborde ce sujet, savoir discerner la volonté de Dieu. Je vous propose une lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Nous lirons juste un verset. Romains chapitre 12 et le verset 2. Merci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous propose qu'on le relise encore une fois. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est question ici d'un, en langage courant, on dirait d'un processus, d'un procédé, en trois étapes. Et moi, je préfère appeler ça une loi spirituelle, avec trois choses bien distinctes. Il y a une première chose qui est ne pas se conformer au siècle présent. Et puis, il y a un mécanisme qui engendre une deuxième chose, c'est que on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, et tout ça afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, si on décortique un petit peu, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais se conformer, je ne vais pas prendre l'étymologie, mais tout le monde, je crois, connaît ce mot, c'est prendre la même forme. C'est être formaté, comme on dirait aujourd'hui, être formaté comme, c'est rentrer dans le moule, c'est prendre la forme identique. Être transformé, ça, on retrouve la même racine de la forme, mais là, ça n'a plus rien à voir. C'est être changé dans une autre forme. J'ai une forme initiale et l'apôtre Paul nous invite à changer de forme. C'est le même mot qui est utilisé quand Jésus est sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean et qu'il nous est dit que son visage est transfiguré. C'est étymologiquement, dans le texte en grec, c'est le même mot qui est utilisé pour transformer et transfigurer. C'est vraiment une apparence nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Et puis vous noterez qu'il est question d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est important, nous ne sommes pas d'abord transformés et ensuite, par conséquence, notre intelligence est renouvelée. C'est le renouvellement de notre intelligence par le Seigneur qui nous transforme, qui fait de nous quelqu'un de nouveau. Alors là encore, j'ai essayé de... Je n'ai pas fait d'études de grec ni d'hébreu. Il y a de très bons dictionnaires bibliques et je m'en inspire. Et le terme utilisé pour l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, quand on regarde en grec, il y a environ 8 mots différents pour signifier l'intelligence, parce que c'est, ça a tellement de domaines particuliers qu'il y a environ 8 mots différents. Et ici, quand il est question du renouvellement de l'intelligence, il n'est pas question, ce n'est pas le même mot utilisé que l'intellect ou la connaissance intellectuelle. Il n'est pas question de la connaissance, il n'est pas question de cette intelligence-là. Le mot qui est utilisé en grec, c'est le même mot qui est utilisé notamment quand Jésus est ressuscité et avant d'être enlevé au ciel, il s'adresse à ses disciples et il leur dit « alors il leur ouvrit l'esprit ». Afin qu'ils comprennent les Écritures. Et le mot esprit à ce moment-là, c'est, en grec, c'est le même mot qui est utilisé pour le renouvellement de l'intelligence. On le retrouve aussi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, quand il dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. » Et le mot « pensée », ici, en grec, c'est le même mot qui est utilisé pour l'intelligence. Et il est question... ici, du renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire notre esprit, notre entendement, toutes nos facultés de perception et de compréhension, notamment la faculté de perception des choses divines, la reconnaissance du bien et la haine du mal, le pouvoir de considérer, de juger d'une façon impartiale, c'est-à-dire juste, sans parti pris, c'est ici ce dont il est fait mention quand il est question d'intelligence renouvelée. Alors, discerner la volonté de Dieu, je le disais, même quand on n'a pas encore fait le pas de rentrer dans l'alliance avec Dieu, de s'être repenti, d'avoir demandé à Dieu de changer notre vie et de prendre la décision de marcher avec lui, il y a ce que j'appellerais une volonté universelle, une volonté de Dieu pour tous les hommes. Et il est écrit dans 1 Timothée, au chapitre 2, verset 4, « Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ça, c'est une première volonté de Dieu qui dure depuis la création du monde. Dieu a créé l'homme pour être en relation avec lui. Et le péché est venu nous séparer de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors ce matin, peut-être si tu n'as pas encore fait ce pas et que tu te dis « De toute façon, je ne sais même pas Dieu ce qu'il veut pour ma vie », moi, je peux déjà te dire une chose, c'est que Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut racheter ton âme, il veut faire de toi son enfant. Et ce matin, c'est peut-être le temps aussi de faire le pas. Dans 2 Pierre, il nous est dit aussi, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Certains de la première église disaient, c'est bizarre, parce qu'il a promis qu'il allait revenir, et puis on ne le voit pas revenir. Donc déjà, il s'impatientait. On est au 21e siècle, imaginez, ça faisait quelques mois, quelques années que le Seigneur était monté au ciel, il avait dit je reviendrai. Et puis certains s'impatientaient. Et l'apôtre Pierre dit non, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ça, c'est le plan, c'est la volonté de Dieu pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les jeunes et les moins jeunes. De notre siècle et de ceux qui nous entourent, qui nous sont chers, comme ceux qui sont loin. C'est le plan de Dieu pour l'humanité. Et puis dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, on va pouvoir le lire ensemble, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Les versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette les préceptes, ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Je dirais, ça c'est une deuxième volonté que j'appelle aussi universelle pour chacun de ses enfants. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Une fois qu'on est rentré dans la promesse, qu'on est rentré dans la repentance, qu'on a accepté de changer de vie, alors la volonté de Dieu, ça n'est pas qu'on retourne aux choses anciennes, c'est qu'on continue à marcher dans la sainteté, de sainteté en sainteté. Et ce que Dieu veut, il nous est dit ici, c'est votre sanctification. Et Paul écrira également aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 9, c'est, je dirais, le pendant de ce qu'il écrivait ici aux Thessaloniciens. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. » On pourrait s'y méprendre. Non, ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et on pourrait encore rajouter certainement beaucoup de choses sur cette liste-là. Il est clair que le Seigneur viendra chercher non pas des gens qui auront fait de bonnes œuvres et qui auront fait par leurs actions du mieux qu'ils peuvent. Le Seigneur viendra chercher des hommes et des femmes sanctifiés par la grâce, par le sang de Jésus et qui auront choisi de vivre une vie de sainteté, rachetée par grâce. Et ce matin déjà, si quelqu'un se reconnaît dans ces situations et peut-être dans d'autres, il est urgent de revenir au pied de la croix, de se repentir, de demander pardon à Dieu, d'accepter que Jésus ôte ce péché de votre vie, que vous soyez, comme je l'ai dit, pas encore engagé et que vous réalisiez ce matin que votre vie, elle est tenue par le malin, dans le péché, ou que peut-être vous soyez engagé avec Christ depuis un certain temps, peu importe, et que le péché est venu s'immiscer de nouveau dans votre vie, alors il est temps ce matin de reconnaître la situation et de demander à Dieu de venir ôter et purifier vos cœurs. Et Paul poursuivra en écrivant, et c'est une bonne nouvelle, « Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. » C'est ce qu'il écrit aux Corinthiens. « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Le péché ne doit pas nous accabler et nous rendre tristes. Il rend triste quand on choisit de persévérer et de rester dans la pratique du péché. Quand on se repent et qu'on l'abandonne à Dieu, alors il y a une merveilleuse espérance, c'est que Dieu nous déclare par le sang de Christ, il nous déclare saints, il nous déclare justes par l'Esprit de notre Dieu. Et Dieu veut notre salut et notre sanctification. Alors ça, je dirais, c'est d'une manière peut-être générale la volonté de Dieu pour chacun parmi nous. Mais de manière un peu plus précise, qu'en est-il de la volonté de Dieu pour chacune de nos vies en particulier ? Quand on vient à Christ, Dieu ne fait pas de nous des clones en disant « de toute façon, vous allez tous faire pareil, vous allez tous rentrer dans le même moule, et puis ça va être comme ça pour tout le monde ». Non, on a tous des parcours différents, et Dieu nous appelle à vivre des choses différentes. Et je pense qu'il est important que nous sachions, que nous puissions discerner la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Et pour cela, il nous est dit dans le verset d'introduction que nous avons lu, pour discerner sa volonté, Dieu nous appelle à être transformé par le renouvellement de notre intelligence. C'est un processus, je le disais, qui ne peut pas être humain. Ce n'est pas du fait de notre propre volonté, de notre capacité. Mais c'est la conséquence directe de l'action de Dieu dans nos vies, à une condition bien évidemment, c'est dès lors que nous acceptons d'abord que Dieu agisse dans nos vies et que nous acceptons de ne pas nous conformer à l'esprit du monde. C'est ce que l'apôtre Paul dit, ne pas se conformer au siècle présent. Et notez d'ailleurs que quand il est question du siècle présent, il n'est pas question d'une mode actuelle ou contemporaine, puisque l'expression « siècle présent » était utilisée à l'époque de la première Église, des premiers chrétiens, puisque Paul l'écrivait pour l'Église des Romains. Donc c'était bien pour le siècle dans lequel il vivait, et cette expression à traverser les âges. Donc c'était valable au 1er siècle, c'était valable au 2e siècle, je pourrais faire la liste, et c'est valable au 21e siècle. Ne pas se conformer, ne pas prendre la même forme ne pas se mouler dans les principes, les raisonnements des gens qui vivent sans Dieu dans leur vie. C'est ça, ne pas se conformer, c'est ne pas se laisser entraîner par ce mode de vie de gens qui sont sans Christ dans leur vie. Et Paul écrira aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. » Et je voudrais illustrer au travers trois exemples, trois situations, de quelle manière nous pouvons être amenés à ne pas nous conformer au siècle présent. Alors, la liste, là encore, pourrait être très très longue. Et j'ai choisi trois situations qui se trouvent dans le livre de Daniel, le prophète Daniel. Alors, le contexte de l'époque du prophète Daniel, par la bouche des prophètes, dont beaucoup Jérémie, mais aussi d'autres prophètes, Dieu avait appelé à plusieurs reprises, à de très nombreuses reprises, le peuple d'Israël à se repentir de ses mauvaises voies. Le peuple s'était détourné de Dieu pour servir des idoles devant lesquelles il se prosternait. Dieu a usé de patience, il a usé de patience, et on peut lire dans Jérémie au chapitre 25, verset 3, la patience de Dieu a duré 23 ans. Et sa colère s'est enflammée, parce qu'à un moment, Dieu patiente, et puis il y a des termes à la patience de Dieu. Alors sa colère s'est enflammée contre le peuple d'Israël qui n'entendait rien. Et puis l'armée de Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone, est venue assiéger Jérusalem, et plusieurs dizaines de milliers de personnes du peuple d'Israël ont été déportées à Babylone, et l'exil a duré 70 ans. Et à Babylone, je peux vous assurer que le climat moral de Babylone était totalement païen. Là, on ne croyait pas dans le Dieu des cieux. On croyait dans des dieux qui étaient des statues. Alors, il y avait toutes sortes de dieux, comme à l'époque pour les païens. Et c'est dans ce contexte difficile que Daniel, qui était jeune, hein, les textes estiment qu'il était entre l'adolescence et en tout cas très jeune homme. Hein, donc, il avait peut-être entre 17, 18, 20 ans, mais c'était quelqu'un de très jeune au début de l'exil quand il est arrivé à Babylone, parce qu'ensuite il y est resté pendant l'exil pendant plusieurs dizaines d'années, mais au début des récits, Daniel était très jeune. Je vous propose de lire au chapitre 1er de Daniel, et on lira à partir du verset 3 jusqu'au verset 17. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table, et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michel et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes.
Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Amen. Au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Dans le contexte de l'époque, je l'évoquais, Babylone, c'était une ville païenne avec beaucoup de dieux, beaucoup d'idoles, et il est très probable que la nourriture et le vin servis à la table du roi, il est probable qu'ils aient été consacrés aux idoles. Et en manger pour Daniel et ses amis aurait été contraire à l'enseignement de Dieu. Et c'est une position qu'il a prise de ne pas se nourrir des mets du roi, parce qu'il y avait certainement de très bonnes choses, les meilleurs plats certainement, les meilleures viandes, les meilleures préparations, les meilleurs vins du pays. Je n'ai jamais mangé à la table du président de la République, mais quand on entend les repas qui sont faits, en général, il y a une bonne cave, il y a tout ce qu'il faut, il y a un chef cuisinier, et je pense que la préparation des plats n'était pas remise en cause par Daniel. C'est ce côté de consécration aux idoles qui l'empêchait, parce qu'il avait foi en son Dieu, il ne voulait pas se souiller avec ses mets. Je fais une parenthèse très rapide sur l'alimentation, ce n'est pas l'objet, mais c'est l'occasion qui m'en est donnée, sur l'alimentation bio. Il y a des courants, y compris dans les mouvements évangéliques, hein, sur l'alimentation bio. Dieu merci pour l'alimentation bio, hein, qui est sans traitement, sans pesticides, sans antibiotiques pour les animaux. Enfin, et quand on peut le faire, c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger bio. Hein, loin de là, quand on peut le faire, c'est très bien. Je pense qu'il faut avoir une certaine sagesse et foi aussi. Notre nourriture est sanctifiée par la prière. Et on a parfois certaines dérives de gens sous prétexte que ça n'est pas bio. Non, moi, j'en prends pas. Je ne suis pas, c'est une conviction personnelle, je ne suis pas certain que ce soit forcément très sage. Ça peut parfois être un contre-témoignage. Et en tout cas, c'est ça, je l'assume, c'est certainement un manque de foi. Parce que si je prie avant le repas, et même si je suis dans un contexte où je ne peux pas prier à voix haute, je peux très bien le faire dans mon cœur en disant ben, « Écoute Seigneur, merci pour cette nourriture, tu pourvois, tu la sanctifies pour mon corps. » Et c'est un manque de foi que de dire « Je ne mange pas parce que ça n'est pas bio. » Je referme la parenthèse, ce n'est pas le sujet de ce matin. C'était l'occasion puisqu'on parlait des bons mets du roi. Je ne sais pas si c'était bio à l'époque, mais en tout cas, il y avait certainement de bonnes préparations. Dans notre contexte, la nourriture et le vin représentent aussi ce qui alimente, ce qui nourrit, ce qui distrait la vie des gens qui vivent sans Dieu. Quand on regarde dans les civilisations anciennes, les repas étaient aussi souvent des orgies, c'était des moments de distraction. Il y avait aussi parfois beaucoup de choses, de danse, voire de nudité. Il y avait vraiment un climat et une ambiance qui étaient malsaines. Et ça représente aussi, pour nous aujourd'hui, la nourriture de nos âmes, de quoi nous nourrissons-nous, de quoi sont faits nos loisirs, de quoi sont faits nos lectures, les musiques que nous écoutons, les films que nous regardons, comment nourrissons-nous nos âmes? Alors le monde et l'esprit du monde inversent les choses en essayant de nous faire croire que sa nourriture est bien plus profitable que la nôtre. Et effectivement, vu sous l'angle même de la simple lecture qu'on peut faire, entre les préparations et le vin qui était servi au roi, et des légumes et de l'eau, moi franchement, j'aime bien manger, j'aime bien les bonnes choses. Naturellement, j'irai quand même plus facilement vers la table royale ou la table présidentielle que vers le régime aux légumes et à l'eau. Et ce qui nourrit le monde peut paraître agréable au palais, mais ça produit la mort intérieure. Et le chef des eunuques dit, mais pourquoi le roi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous vous rendez pas compte, vous allez manger des légumes et de l'eau, mais vous allez être sans force, vous allez être triste. Il nous est dit, Daniel résolu, c'est une résolution qu'il avait prise. C'est pas quelque chose qui lui est imposé, c'est lui qui avait fait le choix. Et quand on prend des résolutions, dans nos vies, ça nous donne de l'assurance et ça nous donne de la joie. Plutôt que de subir, si on vit la vie chrétienne en se disant « Ouais, mais ça, j'aimerais bien y goûter, mais je n'ai pas le droit. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Oh, les choses du monde, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le droit. » Alors effectivement, le visage, il va être complètement abattu. Ça, c'est sûr. Parce qu'on va marcher dans une vie chrétienne de fardeaux, d'interdits, de choses qu'on ne peut pas faire, et puis qu'on aimerait bien, mais on ne peut pas. Ouais, et puis si on me voit, qu'est-ce qu'on va dire ? Non, la résolution, c'est l'engagement. Oui, Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que ces choses-là ne vont pas nourrir mon âme. Je sais que ces choses-là vont attrister ton cœur de père. Alors moi, je prends la résolution, Seigneur, de ne pas rentrer dans ces choses que le monde peut offrir, qui paraissent agréables, qui paraissent douces au palais, mais qui produisent la mort. Et le résultat, ben le résultat, il ne s'est pas fait attendre. Hein. Au bout de 10 jours, verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alors moi, je me suis quand même posé une question. Je me suis dit, soit tous les autres, ils ont eu une indigestion, parce que franchement, manger les mets du roi, le vin pendant 10 jours, au niveau de l'embonpoint, je pense que le tour de ceinture, il aurait dû normalement être un peu plus important et les joues, un peu plus joufflues que ceux qui avaient mangé des légumes et de l'eau. Enfin, la logique, les diététiciens, je pense, vous diraient ça. Entre manger les mets royaux et le vin ou les légumes et l'eau, il n'y a pas photo. Hein. Mais là, je crois qu'il y avait particulièrement la main de Dieu aussi. C'est qu'il a permis qu'ils aient des visages rayonnants, ils avaient des meilleurs visages et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alors verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Là encore, on retrouve ce processus. Je ne me conforme pas, je prends la décision, la résolution de marcher dans le plan de Dieu, alors le Seigneur agit et m'accorde la sagesse, l'intelligence. Et puis, au verset 20, il nous est dit, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans le pays. C'était le top du top. C'était, comme on dit, le gratin, puisqu'on parle de nourriture. Hein. C'était le haut de gamme. Le Seigneur leur avait accordé une telle intelligence, une telle sagesse que le roi ne pouvait que le constater. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le roi élève Daniel et lui donne le commandement de toute la province de Babylone. Puis il l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Et l'intendance de la province est confiée aux 3 compagnons de Daniel, qui lui est également nommé à la cour du roi. Donc ils ont été positionnés très proches du roi. Nebuchadnezzar, mégalo, fait fabriquer une statue d'or, haute de 60 coudées, environ 30 mètres. 30 mètres, ça fait quoi? Ça doit faire un bâtiment d'une douzaine d'étages. Hein, donc vous imaginez un bâtiment à peu près de 10-12 étages. Et vous imaginez la statue d'or que Nebuchadnezzar a fait construire. Et puis il ordonne qu'au son des instruments, tout le monde se prosterne et adore la statue. Il y a une sentence, celui qui désobéira à l'ordre du roi sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Et je vous propose de lire ce récit au chapitre 3 à partir du verset 7. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement !» Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» C'était surtout pas la question à leur poser. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au Dieu que nous ne servirons pas tes dieux. » Au roi, pardon, merci. « Sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « Mais n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Encore une résolution ferme, compris les amis, les compagnons de Daniel. Et ne pas se conformer aux directives du monde, ça peut engendrer de lourdes conséquences. Ils le savaient, ils l'ont complètement assumé. Ils ont dit, de toute façon, Nebuchadnezzar, sache que notre Dieu nous délivrera de ta main, et quand bien même il ne le ferait pas, de toute façon, nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Alors on pourrait mettre en évidence plusieurs points de ce passage. Il y en a 2 particuliers que je voudrais ce matin relever. Le premier point, c'est au verset 7. Tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce passage, c'est qu'il y avait très probablement parmi ces personnes qui se sont prosternées des enfants d'Israël qui avaient été déportés à Babylone. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers. Et quand il nous est dit « tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue », sous la menace, il y en a beaucoup qui ont craqué et qui se sont dit « on préfère se soumettre aux ordres de Nebuchadnezzar plutôt que tenir ferme devant Dieu. Moi, je n'ai pas envie de finir dans la fournaise. » Alors, je dirais, remarquer pour beaucoup, ça ne changeait guère de leur situation d'avant l'exil, parce que Dieu avait permis l'exil, parce qu'ils adoraient déjà des faux dieux quand ils étaient à Jérusalem. Alors, que ce soit à Jérusalem ou à Babylone, on peut dire que ça ne change pas grand-chose. Malheureusement, l'exil ne leur avait même pas servi de leçon, et ils étaient toujours dans cette insoumission à Dieu, dans cette adoration des idoles, des dieux païens. Et les amis de Daniel, eux, avaient gardé leur espérance et leur foi centrée sur Dieu. Ils avaient aussi conscience que la colère de Dieu contre le péché et la désobéissance est bien plus redoutable que la colère des hommes, et ils ne se sont pas laissés influencer. Il est possible qu'ils aient vu des compagnons d'exil se prosterner devant la statue, Ça n'est pas précisé, mais on peut le supposer. Et ne se sont pas laissés influencer par le comportement, et je pense que c'est important pour chacun dans nos vies, ne nous laissons pas influencer par le comportement parfois peu exemplaire ou le manque de foi de certains qui se revendiquent enfants de Dieu, mais qui n'en portent pas forcément les fruits. Et lorsque nous aurons à paraître devant Dieu, nous n'aurons pas à nous justifier en disant « Ah oui, mais j'ai vu un tel le faire, oui, mais lui le faisait, oui, mais même tel responsable de telle église le faisait. » Non, lorsqu'on aura à comparaître devant Dieu, nous rendrons compte pour notre propre vie, pas pour celle des autres. Et puis le deuxième point, je l'aime particulièrement, c'est au verset 27, c'est juste la suite. « Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. » L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Moi, ça me plaît. Parce que, effectivement, bon, c'est déjà un miracle qu'il n'ait pas été forcément brûlé, les cheveux ne sont pas brûlés, mais même pas l'odeur. Quand, pour ceux qui sont à la campagne, vous savez, quand il y a un feu de broussailles ou de foin, où on sent cette odeur reconnaissable. Quand on se trouve à proximité d'une personne qui fume la cigarette, même des fois à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres, on perçoit l'odeur et des fois on rentre, on dit « c'est bizarre, je sens le tabac » parce que l'odeur a imprégné les vêtements. Et ici, ce détail qui pour moi est important, c'est que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Et je dirais les non-conséquences des épreuves permises par Dieu dans nos vies, jusque dans les moindres détails. Quand on prend la résolution de s'engager avec Dieu, il n'est pas forcément question d'une vie facile. La parole nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et dans les épreuves de la vie, et je voudrais peut-être encourager un frère, une sœur qui passe par des épreuves qui paraissent interminables. Et parfois, le malin se sert un peu comme Job, hein, de compagnons qui veulent encourager et puis qui disent « Ouf, de toute façon, ce sera long. Quand tu t'en seras sorti, si tu t'en sors, ce sera long. Et de toute façon, il y aura des conséquences, il y aura des séquelles. » Moi, je dis non. Je dis quand Dieu permet l'épreuve et qu'il nous donne la victoire et la force d'en sortir, il n'y a pas de conséquences. L'Éternel guérit, l'Éternel délivre et même l'odeur du feu ne nous atteint pas. Il n'y a pas de conséquences sur nos vies quand on marche avec Christ. Alors, le roi Nebuchadnezzar est mort des années plus tard, et puis les rois se succèdent, et Dieu permet que Darius s'empare du royaume de Babylone. Donc, Darius prend la royauté, et puis il trouve bon d'établir des satrapes. Les satrapes, c'était des gouverneurs de province. Aujourd'hui, on pourrait assimiler un préfet, effectivement, hein, qui a la responsabilité d'un département. Donc Darius avait trouvé bon d'établir des responsables sur les provinces, et donc il nomme 120 satrapes, et à leur tête, trois chefs, dont Daniel. Aujourd'hui, on pourrait dire peut-être ministre de l'Intérieur. Voilà, il avait une fonction très élargie, puisqu'il encadrait, il supervisait plusieurs gouverneurs de province. Et donc, dans cette fonction-là, alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, Daniel a grandi. Hein, à ce moment-là, il n'est plus un jeune homme, les années ont passé. Je vous propose de faire la lecture au chapitre 6 et au verset 1er. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Tiens, tiens, étrange. Le renouvellement de l'intelligence. Il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il y avait une promotion dans l'air. Il allait devenir premier ministre. Alors les chefs et les satrapes, en général, quand il y a des promotions, ça ne plaît pas tout le monde. Hein. les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem, et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière trois fois le jour. » Il était observé. Hein. Pourtant, c'était dans sa maison. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Il s'était enfermé dans son propre piège et ne pouvait plus en sortir. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. On va finir le chapitre. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Moi, ces derniers versets, ils me réjouissent. La conversion de Darius, la conversion du roi. Enfin, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais quand on lit ce qu'il a fait publier, moi, je dirais que ça ressemble bien à son témoignage de conversion, quand même. Parce que lui qui avait fait jeter Daniel dans la fosse aux lions au seul motif que la loi des Mèdes et des Perses est immuable et qu'il ne pouvait pas faire marche arrière, dans cette nuit-là, où il n'a pas réussi à dormir, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé une transformation dans sa vie. Et le voilà qui écrit son témoignage et qui le fait diffuser sur toute la terre. Je pense qu'il a dû même le faire traduire parce qu'il écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Je pense que Daniel était loin de se douter quand il était toute la nuit dans la fosse aux lions, ce qui se passait dans le cœur du roi. Certainement qu'il était loin de se douter de cela. Et notre fermeté dans la foi, notre témoignage de vie, notre anticonformisme au monde, même si pour certains ça peut paraître décalé, ringard, il peut avoir des conséquences insoupçonnables. Là encore, vous pourrez reprendre ce chapitre, ce texte que nous avons lu, quand il nous est dit que Daniel... Les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel. Et au verset 5, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel. Il était observé et nous sommes observés dans nos vies. Nous sommes observés. Et si nous voulons porter un témoignage efficace, glorifiant Dieu, mais que nous vivons comme les gens qui vivent sans Dieu, quel témoignage allons-nous apporter ? Ah ben, il dit qu'il marche avec Dieu, mais moi je ne vois pas la différence, franchement. Je ne vois pas la différence, quoi. Qu'est-ce qui change ? Il est tout le temps abattu, il est incapable de prendre des décisions différentes des autres, il fait tout comme nous, en clair. Et Daniel était observé. Et ses compatriotes ne pouvaient trouver aucune occasion contre lui. Quel témoignage ! Il avait une conduite irréprochable. Sa foi était connue de tous. Il savait même qu'il priait 3 fois par jour, pourtant c'était dans sa maison. Je pense qu'il l'observait, il savait. Et lorsque Daniel sut que le décret a été établi, écrit par Darius, il se retira dans sa maison où il priait, louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il n'a rien changé à ses habitudes. Il aurait pu se laisser intimider, il aurait pu très certainement utiliser des stratégies humaines pour essayer de se sortir de sa situation. Il était quand même, en odeur de sainteté auprès du roi, puisqu'il était prêt à le nommer gouverneur sur l'ensemble des provinces. Donc il avait vraiment une position auprès de Darius que nul autre n'avait. Et il aurait pu essayer d'utiliser cette position-là pour se sortir de situation, pour essayer d'argumenter, de négocier avec Darius, même peut-être de renverser la situation en expliquant ce qui s'est passé et d'accuser les chefs, les satrapes, les responsables qui avaient eux-mêmes tendu un piège à Darius. Darius s'est rendu compte qu'il s'est enfermé dans un piège. Et je pense que Daniel aurait été probablement entendu. Mais ce n'est pas le choix qu'il a fait. Au contraire, il a choisi de faire confiance en Dieu et de ne rien changer à ses habitudes. Et les conséquences, on les a vues. Dieu a veillé sur lui. Il n'avait même pas une blessure, là encore. Hein. On l'a vu avec la fournaise tout à l'heure, la fosse aux lions. On a regardé s'il n'y avait pas la moindre griffure. Et moi, je suis sûr qu'il n'y avait même pas un poil de lion sur les habits de Daniel. Et il n'y avait même pas l'odeur des fauves. Je pense qu'il n'y avait même pas l'odeur des fauves. Parce que l'Éternel veillait sur lui. Amen. Alors, j'espère que vous n'allez pas être déçus parce que je n'ai pas trouvé de méthode appliquer pour discerner la volonté de Dieu. Peut-être que certains ce matin se disaient « Super, moi depuis le temps que j'attends de savoir comment faire pour discerner la volonté de Dieu, je vais enfin avoir une méthode. » Non, ne soyez pas déçus, ne soyez pas désolés. Moi, je n'ai trouvé que cette loi spirituelle. Ne nous moulons pas dans le monde, dans le moule de ce monde. N'essayez pas de le copier, n'essayons pas de nous conformer, de rentrer dans ces logiques, de nous en inspirer. Acceptons d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelles que soient nos convictions personnelles, même si elles sont vieilles de plusieurs dizaines d'années, et je le dis pour ma part, on peut, au fil des années, s'asseoir sur des convictions, sur des choses, parce qu'on a entendu ça, parce qu'on pense que c'est comme ça, parce qu'on a une interprétation peut-être de certains passages de la Bible et on est persuadé que c'est comme ça. Laissons-nous nous transformer. Parce que Dieu ne nous forcera pas. Si on n'accepte pas de revenir sur nos positions, si on n'accepte pas de dire « oui, j'ai encore besoin jusqu'à mon dernier souffle d'être transformé ben, », le Seigneur ne viendra pas nous transformer si on n'en a pas la volonté. Acceptons que nos convictions personnelles soient remises en compte. Laissons l'Esprit de Dieu agir en nous. La transformation a ceci de particulier, c'est qu'elle fait quelque chose de nouveau avec de l'ancien. Mais le résultat n'a plus rien à voir avec la première situation. Une transformation, normalement, quand je prends quelque chose et que je le transforme, la chose nouvelle n'a plus rien à voir avec la première chose. Ça veut dire qu'il faut aussi accepter que ce travail se fasse dans nos vies. Et c'est vrai à la conversion, mais c'est vrai chaque jour que nous marchons avec le Seigneur. Soyons prêts à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Et comme Daniel avait résolu de ne pas se souiller, prenons ce matin la résolution, par la grâce de Dieu, de ne pas nous souiller, peut-être de ne plus nous souiller, de lui abandonner toute notre vie, que nous soyons encore séparés de lui par notre péché, parce que nous n'avons pas accepté son salut dans notre vie, ou que nous marchions avec lui depuis des années, voire des dizaines d'années, et puis le péché est revenu. L'impudicité est revenue, des choses contraires à la marche avec Dieu sont revenues. Alors ce matin, il est temps de prendre des résolutions et de dire non, ça je n'en veux plus. Je ne veux plus me conformer au siècle, au monde, au siècle dans lequel je vis. Je veux être transformé par le renouvellement de l'intelligence, par l'action de Christ dans ma vie. Amen, on va prier le Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce témoignage laissé dans ta parole de Daniel, de ses amis qui, malgré les circonstances difficiles, malgré la pression de ceux qui les entouraient, ont pris cette résolution de tenir ferme devant toi. Et c'est vrai qu'il est humainement souvent plus facile de céder, de passer inaperçu face aux menaces, face aux pressions, alors qu'au-dedans de nous, nous savons très bien que ce n'est pas ton plan, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas là que tu veux que nous soyons, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour ma propre vie, je te prie pour la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, pour que nous soyons en capacité, jour après jour, de prendre ces résolutions, de dire « je veux me tenir devant Dieu, je veux tenir ferme dans ma foi, je veux renoncer au péché, je veux renoncer à l'esprit du monde ». Je ne veux pas me conformer à ce qui mène à la perdition, ce qui mène à la mort, mais je veux m'abandonner à celui qui donne la vie éternelle. Je te prie, Seigneur, ce matin, pour ceux et celles qui n'ont pas fait encore ce pas de la repentance et qui se disent peut-être « je ne sais même pas s'il y a une volonté de Dieu pour ma vie ». Je te prie, Seigneur, de visiter leur cœur, de ce matin les convaincre de péché, qu'ils puissent reconnaître leur misère devant toi, crier à toi, s'abandonner à toi, Seigneur, se repentir du mal qui a été fait, de leur séparation d'avec toi, Seigneur, et de goûter à la joie du salut ce matin. Seigneur, je te prie pour des frères et sœurs peut-être qui sont empêtrés dans des liens d'impudicité, dans des liens de mensonge, dans des liens d'appât, de gain, de position sociale, que sais-je encore, Seigneur, dans des choses qui sont venues insidieusement dans les cœurs, dans les vies et dans lesquelles ils se retrouvent enchaînés ce matin, Seigneur. Je te prie de venir par ta grâce, Seigneur, briser ces liens. Je te prie, Seigneur, de faire ton action. Tu es celui qui déclare la sainteté dans les cœurs, Seigneur. Quand tu ôtes le péché, tu fais de nous des hommes, des femmes libres, des hommes et des femmes saints devant Dieu, Seigneur. Et je te demande, mon Dieu, dans le nom de Jésus, de le faire ce matin dans la vie de plusieurs, Seigneur. Qu'il y ait un nouveau départ ce matin pour plusieurs, pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton règne, Seigneur. Sois béni et glorifié. Amen. Amen.